Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika.
Bonjour, 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 auditrices et auditeurs de Radio Galère. Eh bien voilà, nous sommes avec Livres et Amis. Nous sommes le mercredi 6 novembre. Et figurez-vous, Dominique, toute seule aujourd'hui pour l'émission avec Sidi à la technique, parce que Françoise, pour d'autres aventures aujourd'hui, est en réunion avec des gens qui organisent des activités qui auront lieu au printemps 2025, voilà. Et figurez-vous aussi que nous nous retrouvons après avoir eu la semaine dernière un petit, un petit souci d'organisation. On avait fait un apéro mix et le lendemain matin, on s'est retrouvés un peu pas prêts. Voilà, donc il n'y a pas eu d'émission la semaine dernière. On est tous désolés que vous n'ayez pas retrouvé Livres et Amis mercredi 30 octobre. Et ce mercredi 6 novembre, on va faire comme si on était le mercredi 30 octobre ou presque. C'est-à-dire qu'on va prendre la suite de l'émission de la semaine d'avant. Émission qui était consacrée à Marseille trop puissante de Margot Mazelier. Alors, oui, les vacances sont finies. En plus, aujourd'hui, il pleut. Ça fait longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Mais enfin, bon, bref, plus de soleil, plus de plage et pratiquement l'automne. Donc, nous continuons nos lectures de portraits de femmes réunies dans Marseille trop puissante. Et si vous n'avez pas suivi le premier épisode, ce livre de Margot Mazelier, Marseille trop puissante, c'est un livre consacré donc par une jeune journaliste à quelques Marseillaises figures des luttes féministes depuis une cinquantaine d'années. Pour vous éclairer, en effet, le sous-titre du livre, c'est « 50 ans de féminisme dans la ville la plus rebelle de France ». Alors, on reprend la lecture, donc, et la semaine dernière, je vous aurais fait un petit rappel culturel sur des expositions qui allaient se terminer. Eh bien, manque de chance, j'espère que vous les avez vues, parce que ça y est, elles sont terminées. Donc, j'espère que vous avez vu L'œil objectif à Cantigny, j'espère que vous avez vu Panorama à la Vieille Charité. C'était deux belles expositions marseillaises, comme on les aime. C'était les expositions de l'été. Et donc, elles ont fermé leurs portes le 3 novembre. C'est vrai qu'il y avait des images vraiment superbes, en particulier avec des photos du siècle dernier et des photos du pont transbordeur. Le pont transbordeur, ça a été une de ces images du début du XXe siècle, enfin de toute la première moitié du XXe siècle à Marseille, qui a disparu effectivement en 1945. Et puis à Cantigny, de toute façon, même si l'exposition de photos en tant que telle est terminée, vous pouvez retrouver énormément de toiles, de peintures qui sont consacrées à Marseille. Il y a vraiment de très belles peintures de Marseille au musée Cantigny. Donc ça vaut toujours le coup d'y aller. De même que ça vaut toujours le coup d'aller à la Vieille Charité. Même s'il n'y a plus cette exposition sur Au loin l'imaginaire qui resituait le rôle de Marseille dans l'histoire de la colonisation et des regards croisés sur le monde. Même s'il n'y a plus ça, la Vieille Charité, c'est toujours un endroit fabuleux. Vous savez, il y a toujours la collection de François Reichenbach sur l'Amérique centrale et l'Amérique latine. Il y a toujours une très belle collection d'art antique. Enfin bon, bref, des endroits à fréquenter, même si les expositions temporaires y sont maintenant fermées et qu'elles reprendront dans peu de temps, j'imagine. Pour les nouveautés, il y a des nouveautés au MAC. J'ai pas été très enthousiaste des nouvelles expositions temporaires du Musée d'Art Contemporain. Si vous avez l'occasion, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, j'ai pas trouvé ça fabuleux, mais bon, chacun ses goûts. Et plein de choses au cinéma, bien sûr, à découvrir au Gyptis, à la Baleine et ailleurs. Je vous en dirai pas plus parce que j'ai pas encore eu le programme là de cette semaine, mais je suis sûre qu'il y a des choses passionnantes comme d'habitude. Alors, on va revenir à nos histoires de femmes à Marseille. On avait vu la semaine dernière comment les cagoles s'étaient organisées pour soutenir l'OM et que c'était finalement ce nom du club de Marseille Tout-Puissant qui avait été choisi par Margot Mazelier comme titre de son livre, au féminin bien sûr, Marseille Trop Puissante, pour un certain nombre de portraits de femmes. D'abord, on avait évoqué justement les supporters féminines de l'OM, qui avait donné un sacré coup de fouet à l'élan des femmes vers le sport et le fait de ne pas être écrasées dans un milieu évidemment plutôt sexiste et plutôt masculin de façon générale. Et puis on avait aussi vu les combats, on pourrait presque dire, d'origine du féminisme marseillais avec le planning familial, par exemple, avec la lutte pour la liberté des informations sur la contraception et l'avortement. Et on va reprendre cette semaine avec la suite, si on peut dire, de cette histoire du féminisme d'origine. On va voir maintenant le portrait de Marie-Claude Tordeau, qui a consacré une bonne partie de son activité féministe au MLAC, vous savez, le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Donc, nous allons commencer par ce portrait de Marie-Claude Tordeau et puis nous continuerons avec d'autres portraits de femmes qui se battent dans la ville pour rendre, comme disait l'auteur Margot Mazelier, la ville un peu plus vivable aux femmes et à tout le monde, bien sûr. Alors, Marie-Claude Tordeau nous disait... Avec le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, le MLAC donc, on avait le sentiment de reprendre possession de notre corps et de rompre la chaîne des violences faites aux femmes pendant des siècles. Eh oui, elle était infirmière, comme on l'a vu la semaine dernière, Julia Morandi. Elle a travaillé au CHU de la Timone et de l'Hôpital Nord. Et avant cela, pendant ses études de médecine, elle a rencontré d'autres femmes qui faisaient une formation d'infirmière, qui s'étaient réunies dans le groupe Révolution. Révolution, point d'exclamation. Et Révolution, vous en souvenez peut-être, c'était un groupe d'extrême gauche de tendance trotskiste. Et là, comme ailleurs, les femmes se sentaient quelquefois un peu mises de côté et elles se sont réunies donc... dans un groupe du MLAC pour assumer leur lutte de femmes et en particulier leur lutte de revendication dans un collectif composé avant tout de médecins et d'infirmières, mais aussi d'hommes et de femmes de la société civile, pour militer pour la légalisation de l'IVG en France et pour pratiquer des IVG alors que ce n'était pas encore légal. Donc, l'association du MLAC, à Marseille comme ailleurs, menait des pratiques clandestines et procédait à des avortements en utilisant la méthode par aspiration, la méthode Karman. Si vous avez vu le film de Blandine Lenoir, Colère, comment s'appelait-elle ? Avec un prénom, Colère. Vous avez vu le déroulement de ces avortements Karman, y compris dans des appartements. Et vous avez vu comme, en effet, la passation de la technique se faisait, en général, entre femmes, de médecins à femmes de la société civile ou de infirmières à femmes de la société civile. Alors, Marie-Claude Tordeau, elle nous donne une interview, un entretien là, vraiment intéressant. Elle vit maintenant à Nîmes et elle parle de son expérience au MLAC. On était réunis par nos études, on était réunis par nos activités militantes. On avait fait une cellule santé à Révolution et on a très vite constitué ce groupe du MLAC. Avec d'autres femmes de la Ligue communiste révolutionnaire, on a lancé le groupe de femmes de la Plaine en 1974. Ce groupe, c'était d'abord un groupe de parole et puis justement un groupe d'action. On a formé donc un mouvement qui était à la fois un mouvement inspiré de la lutte des classes et de la lutte des femmes pour les femmes. Parce que les femmes, oui, ben, on connaissait en particulier leurs problèmes. La double journée, et puis les problèmes vis-à-vis de la sexualité, de la contraception et justement de l'avortement. Donc, se réunir au sein du MLAC, c'était au départ un réseau tout à fait informel. C'était quelque chose qui fonctionnait essentiellement par le bouche à oreille avec le planning familial ou la librairie des femmes de Marseille. Mais on recevait des femmes qui souhaitaient parler et surtout qui souhaitaient avorter. Donc, on faisait des entretiens préalables collectifs, puis individuels. Et, si besoin, on passait dans la pièce à côté pour procéder à l'avortement par aspiration. C'était ça, c'était simple et c'était pour tout le monde. Plus besoin d'aller à Londres, puisque à l'époque, c'était Londres pour les riches et l'avortement clandestin pour les autres. Eh bien, avec le MLAC, c'était un avortement simple, sans risque et bien encadré par des professionnels qui avaient passé leur technique. Des années plus tard, oui, bien sûr, des années plus tard, on se souvient de ces expériences. Et ce dont on se souvient, c'est en effet que la méthode Karman a permis de transformer l'avortement en un acte, peut-être pas anodin, mais en tout cas un acte sans dommage pour la santé, un acte ne nécessitant pas de cadre hospitalier et un acte qui pouvait être encadré par des femmes entre elles. L'idée, c'était de mettre à disposition des femmes toutes les connaissances qu'on avait en tant que professionnels de santé pour que les femmes qui nous encadraient ou qui nous entouraient puissent se les approprier. Ça créait une sorte de transversalité. Parce que la méthode était simple, eh bien, le moment de l'avortement en tant que tel n'était plus du tout traumatisant. Il n'y avait pas de souvenir glauque, au contraire. On se sentait relié, on se sentait connecté. On pensait à nos mères qui avaient peut-être dû avorter seules avec une aiguille à tricoter. Et on sentait vraiment le pouvoir des femmes entre elles. Se réapproprier ce geste, c'était se le réapproprier de façon bienveillante, dans la douceur et dans l'entraide. Et oui, c'était puissant. Voilà, c'était puissant, Marseille. Trop puissante, avec des femmes volontaires qui sont au MLAC et qui, par exemple, en janvier 1975, soutiennent la loi Veil lorsqu'elles passent. Oui, elles se soutiennent entre elles et elles se soutiennent même si, par exemple, à Aix-en-Provence, il y a un procès contre les avortements clandestins. Mais au procès d'Aix-en-Provence, toutes les femmes se mobilisent. Elles assistent au procès, toutes les femmes du MLAC, toutes les femmes sympathisantes. Et le procès devient un genre de tribune au sein de laquelle les femmes peuvent justement expliquer la nécessité des avortements Karman, la nécessité des avortements légaux. C'était des temps qui permettaient de libérer la parole, de créer du lien, et on a voulu reprendre ça dans des réunions du MLAC pour ne pas tomber dans les écueils sexistes qu'on avait pu observer dans certains services hospitaliers. Donc, même quand l'avortement devient légal, c'est-à-dire qu'on va maintenant parler d'IVG, même quand les femmes peuvent donc pratiquer des IVG dans les milieux hospitaliers, eh bien, les réunions du MLAC continuent pour encadrer, pour informer, pour discuter et pour dire que même si l'IVG est devenu un acte médicalisé, il y a toujours des militantes du MLAC qui considèrent que la loi est incomplète, qu'il faut continuer à donner aux femmes la maîtrise de leur propre corps et qu'elles ne doivent pas abandonner le savoir-faire aux médecins seuls. C'est vrai que le MLAC, comme le MLF, comme le planning familial, sont des cadres de réunion, sont des cadres de tribune. Et à Marseille, comme à Paris, avec en particulier la librairie des femmes, animée par Antoinette Fouque, ce sont des lieux de rencontre, des lieux de discussion qui permettent de mettre en avant les idées des femmes et surtout la pratique des femmes. Alors oui, bien sûr, ces rencontres, ce sont pour Marie-Claude Tourdeau des moments passionnants parce que quand on rencontre d'autres femmes, entre femmes, on est libre de parler. Pendant ces années-là, on n'était qu'entre femmes. On ne vivait plus pour ou sous le regard de l'homme. C'était une vraie libération. Alors que quand on militait dans des groupes d'extrême gauche, ben, finalement, nous n'existions pas en tant que femmes. Nous estimions que nous étions des militants comme les autres. Alors les mouvements de femmes, oui, c'était important pour se retrouver entre femmes, pour se soutenir dans des moments de militantisme, mais aussi très vite d'amitié, de rencontres. Les têtes pensantes étaient à Paris, peut-être, mais il y avait des relais marseillais. Et nous, entre militantes féministes marseillaises, eh bien, nous continuions ce rôle de rencontre, de soutien à toutes celles qui en ont besoin. Et Marie-Claude ajoute, « Je me sentais plus forte. Je me suis envisagée comme médecin. J'ai repris mes études parce que je voulais enfin pratiquer une médecine qui me semblait la bonne. » Et en effet, elle a repris ses études, elle est devenue médecin généraliste, elle est restée militante. Et même si Marie-Claude s'est éloignée d'un militantisme de terrain, elle a continué ses rencontres importantes pour elle et pour toutes celles qu'elle rencontrait, justement. Elle a participé à AIDE dans les années 90 et aussi à l'association Ados sans frontières. Elle habite Nîmes maintenant et elle vient en aide aux mineurs non accompagnés dans le Gard. Et puis sa fille cadette, est devenue aussi une militante féministe engagée et elle milite à son tour. C'est pour ça que Marie-Claude, c'est vraiment une personnalité importante et c'est vraiment une vraie passation du féminisme, une passation du mouvement et du militantisme important pour nous, bien sûr. Alors voilà. Le féminisme un peu historique, on l'avait vu avec le planning, on vient de le voir avec Révolution et le MLAC. Eh bien, on va le voir maintenant en citant, disons, les interviews de femmes pour qui le militantisme féministe, c'est aussi les luttes antiracistes. C'est, disons... complètement intégrée dans les luttes antiracistes. Parce que ce dont les femmes d'origine étrangère se rendent compte, même à Marseille, c'est qu'il est difficile d'avoir une place dans la cité quand on est une femme, et il est encore plus difficile d'avoir une place dans la cité quand on est une femme originaire d'un pays étranger. Donc c'est par exemple ce que va nous expliquer Yamina Benchini, qui nous dit « Les hommes estiment qu'en tant que femme, on souffre moins des violences policières parce qu'on est moins exposé au sein de l'espace public. Mais justement, ils nous poussent vers une privation de liberté et c'est aussi une discrimination de genre qu'on vit en plus du racisme. C'est un genre de double peine qui n'est jamais reconnu. » Et oui, Yamina, elle nous fait part finalement d'une discrimination à la fois raciste et sexiste parce que avec ses origines maghrébines, eh bien finalement, quand elle veut militer, elle se heurte à beaucoup d'obstacles réunis face à elle. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit que quand elle s'est aperçue du racisme on pourrait dire rampant à Marseille, en particulier dans les années 70, qui devient beaucoup plus violent, vous savez, en 73, avec les rintonnades, les assassinats, etc. Eh bien, elle se dit qu'en effet, il faut militer, il faut se mobiliser contre tout cela. Elle a connu les mouvements sans en faire véritablement partie. Elle a connu l'existence de la librairie des femmes, du MLAC, etc. Et Yamina, elle se situe là, à l'intersection de ces luttes féministes et antiracistes. Elle a longtemps fait des allers-retours entre différents groupes de lutte, mais quand elle s'installe dans la lutte, justement, c'est la lutte féministe antiraciste. D'abord, elle raconte son histoire. Elle est née à Cannes en 1960, dans le vieux Cannes, le Cannes centre-ville, le Cannes bourgeois finalement. Mes parents venaient d'immigrer de Mostaganem. Mon père était venu plus tôt, mais ma famille venait d'arriver. Alors, il s'est engagé dans des travaux qu'il acceptait au fur et à mesure qu'on lui offrait. Et il a fini par être embauché à la mairie de Cannes. Il est devenu agent municipal. Et à partir de ce moment-là, il a eu un titre de séjour, un logement de fonction. C'est là qu'il a fait venir sa famille. Donc, Yamina est là, à Cannes, justement, au lendemain de l'indépendance de l'Algérie. Mais la municipalité exige, la municipalité de Cannes donc, exige de son père qu'il demande la nationalité française pour garder son emploi. Et alors que l'Algérie vient de devenir indépendante, mais non, cet homme, il refuse. Il veut rester algérien. Ça lui paraissait inconcevable d'être obligé de devenir français. Donc, il perd son emploi. Et perdant son emploi à Cannes, il arrive avec sa famille à Marseille. Il arrive dans le coin de Saint-Barthélemy, où à l'époque, il y a encore des bidonvilles. Et puis, finalement, on leur attribue un appartement. Il continue à habiter, là, dans ce quartier de Saint-Barthélemy. Il rencontre, enfin, elle, Yamina, à l'époque enfant, rencontre d'autres enfants, d'autres adultes, qui se mélangent sans problème. Chacun joue, dit-elle, devant les fenêtres des bâtiments. Garçons et filles mélangés, Français et Algériens mélangés. Mais à l'arrivée de l'adolescence, Yamina voit ses libertés se restreindre. « Tant que j'étais petite, je pouvais sortir autant que je voulais, dit-elle. Mais dès que j'ai eu mes règles, eh ben, je suis devenue une jeune fille à marier, et donc une fille à surveiller. » La liberté, finalement, c'était pas si important que ça. Il fallait plutôt prendre ses responsabilités, et il fallait faire les courses pour la famille, mais en dehors de ça, pas beaucoup d'autorisation de sortie. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ? Bah, elle retrouve d'autres filles et elles se mettent ensemble à parler, à discuter. Et c'est vers cette époque que, aussi, elle voit se manifester le racisme du quotidien. Le racisme de policiers qui viennent dans la cité, qui contrôlent les papiers, qui viennent voir ce qu'on fait là et qui font qu'on est toujours obligé d'avoir ses papiers avec soi. Peu à peu, on a l'impression qu'on est surveillé. Et puis donc surviennent les agressions des groupes racistes meurtriers pendant l'année 73. Mon père nous a expliqué ce qui se passait, de quoi il s'agissait. Et à ce moment-là, enfin plutôt en 1974, l'oncle de Yamina est assassiné à Narbonne. C'était aussi une ratonnade. Et comme on n'avait pas assez d'argent pour faire transporter son corps, il a été mis dans une fosse commune. Ça a été terrible pour toute la famille. C'était ce gouvernement Chirac, ce gouvernement contre les étrangers, qui, prétextant la crise et la forte augmentation du chômage, avait décidé de suspendre l'immigration et de commencer à fermer les frontières. Chirac, il avait même instauré l'aide au retour, vous vous en souvenez peut-être. Il appelait ça « prends tes débiles et casse-toi ». Mais cette allocation, on l'a vécue comme une atteinte à la dignité. C'était terrible. Par exemple, le père de Yamina, ben non, il est resté là. Il ne voulait pas recevoir cet argent et retourner en Algérie. Il ne voulait pas qu'on le renvoie comme un malpropre. Donc il est resté en France, il a gardé un travail en France et toute la famille est restée en France à ce moment-là. Alors Yamina en particulier, elle a commencé à fréquenter des militants d'extrême gauche. Elle se souvient par exemple en 1977 de sa rencontre avec les militants du groupe Révolution. Ah ben oui, elle aussi. Elle n'a pas beaucoup plus de 15-16 ans, mais elle commence à réfléchir, elle commence à militer, parce qu'elle voit son père travailler jusqu'à l'épuisement et n'être toujours pas reconnu. Alors, elle milite à Révolution et très vite, elle rencontre aussi des militantes du MLF. Elle a pris conscience, au sein de cette lutte, que la question du droit des femmes était fondamentale. Avec le MLF, Yamina découvre la notion de choix. Je crois que c'est à cet endroit que j'ai trouvé un parallèle avec l'histoire des femmes françaises. Parce que dans les combats des femmes, même bourgeoises, il y a une histoire commune, même si ce n'était pas complètement la mienne. Les femmes avaient été dominées, elles étaient encore dominées. Ce n'était pas seulement une question de classe sociale ou de race, c'était vraiment une question de sexe. Ce sentiment s'est renforcé justement à la tenue du procès contre le MLAC à Aix en 1977. On en a parlé tout à l'heure avec Marie-Claude. Eh bien, en effet, ce procès, ça a mobilisé. Ça nous a mobilisés, nous femmes, parce que nous voyions que les femmes étaient toujours privées de droits. De droits pour leur corps et de droits pour leur pensée. Yamina prend l'exemple de certaines de ses amies qui, ayant refusé d'épouser l'homme choisi par leur famille, avaient été renvoyées en Algérie et privées de leurs papiers. Les hommes pouvaient refuser un mariage forcé, les femmes, difficilement. Choisir pour une femme, c'était désobéir. Et désobéir, ça voulait dire se libérer du contrôle social du quartier, donc finalement se mettre en danger. À ce moment-là, Yamina s'éloigne de son milieu d'origine. Elle quitte sa cité, elle quitte son groupe social et elle s'éloigne même de sa famille. Finalement, il n'y avait pas beaucoup de femmes maghrébines dans les milieux féministes à Marseille. On se cherchait, on était concernés, mais on n'était pas vraiment visible dans l'espace public. On ne voulait pas y être, peut-être. On avait un peu peur de se faire remarquer. Donc, Yamina se dit, mais voyons, est-ce que c'est ça, militer ? Est-ce que c'est ça, se cacher ou faire les choses de façon cachée ? Non, sûrement pas. Alors, à la fin des années 70, Yamina cherche un travail. Elle est animatrice et elle doit passer le permis. Elle doit s'acheter une voiture. Elle revendique sa liberté, liberté acquise justement par les revenus du travail. Et à ce moment-là, il y a d'autres drames qui se produisent. Par exemple, à la cité des Flamands, Laouri Ben Mohamed, qui a 17 ans, est tué lors d'un banal contrôle routier par un CRS. Ce CRS de 23 ans qui avait dit « Ah oui, moi, dans les cités, j'ai la gâchette facile ». Alors, Yamina monte le collectif des familles et des femmes victimes de crimes racistes avec d'autres femmes du quartier. Toutes, nous réclamions justice. Nous y avions peur. Nous avions peur que les meurtres ne soient pas reconnus parce qu'ils étaient des crimes racistes. Alors, peu à peu, elle constitue des groupes de femmes qui militent pour elle, des groupes féministes, mais des groupes de femmes qui militent pour toutes et pour tous, c'est-à-dire des groupes antiracistes. Yamina a pris conscience du racisme structurel qui existe au sein de la justice française. En France, quand on meurt, on n'est pas considéré de la même manière si on est arabe ou si on est blanc. J'ai compris que, vivant, on n'était pas égaux et que, mort, on l'était encore moins. C'est à ce moment-là que, par exemple, se forment les associations des Minguettes, à Vénissieux. C'est à ce moment-là que se forment d'autres associations et que Yamina, en effet, monte la sienne. On est au début des années 80 et, en effet, elle milite au sein d'un groupe. Le Forum Justice, qui se tient d'abord dans le 3e arrondissement. Et puis, dans les années 90, après s'être tant battue, elle continue et elle constitue un groupe, justement, à la Cité des Flamands même. Durant toutes ces années, alors qu'elle a deux enfants, elle est touchée, comme de nombreuses mères, puisque les enfants sont concernés aussi et qu'il faut les défendre, en particulier dans les cités, contre le trafic de drogue qui commence à être rampant partout. Il faut abriter les enfants des trafiquants. Ben oui, c'est clair, ce sont les mères qui vont faire la protection des enfants. Il faut en effet que les enfants ne soient pas au contact des trafiquants. Et ceci d'autant plus que les enfants commencent très jeunes à être victimes des trafiquants. En 2013, deux jeunes hommes sont abattus en plein jour à la cité des Bleuets. C'est le collectif de Yamina qui organise avec leur famille le soutien à toutes et tous. Il fallait un collectif de femmes, il fallait un collectif pour montrer qu'en effet nous étions concernés et qu'il fallait nous abriter de ces trafiquants. Et plus tard, au procès, 90% de l'assistance était des femmes, des mères, des sœurs, des tantes. Oui, pour Yamina, cette existence d'un collectif composé de femmes, ça révèle bien sûr la crainte, mais ça révèle aussi la puissance de leur organisation. Et à partir de 2013, avec leur collectif des quartiers nord, elles ont manifesté régulièrement pour dénoncer la violence qui perdurait dans les cités. En 2013, Yamina a fondé ce collectif et depuis, elle continue à l'animer, même lorsqu'elle part dans d'autres régions pour rencontrer sa famille. Et au moment où ces lignes ont été écrites l'année dernière, vous vous souvenez, Naël, 17 ans, a été abattu par un policier à Nanterre. Cela a déclenché des vagues d'émeutes en France et particulièrement dans toutes les villes comme à Marseille où les familles étaient concernées. Alors, avec Yamina, il faut continuer à défendre les jeunes, il faut continuer à défendre les femmes. Et en attendant, nous, on va faire une pause musicale. On va voir avec Clara Luciani qu'en effet, on peut se défendre puisqu'on a sous le sein une grenade, la grenade.
T'as jamais vu une femme qui se bat? Suis-moi dans la ville blafarde et je te montrerai comme je mords, comme j'aboie. Prends garde sous mon sang là.
Regarde, nous disait Clara Luciani, sous mon sein, la grenade. Oui, c'est beau l'image de la grenade, vous savez, c'est à la fois l'arme, c'est pas forcément merveilleux, mais aussi le fruit. Et la grenade, c'est méditerranéen et c'est quelque chose qui, en effet, peut être menaçant. Alors, Revenons à nos femmes, nos femmes actives en particulier dans les quartiers. On a vu tout à l'heure avec le portrait de Yamina que les groupes, les collectifs rassemblaient à la fois des aspects sociaux et politiques, des aspects de lutte bien sûr. Et c'est ce qu'on va voir aussi, en particulier dans la vie quotidienne, dans la lutte pour la vie quotidienne, avec le portrait de Souad. Souad dit, en titre de son portrait, « Quand je souffrais, il n'y avait personne pour m'aider. Alors, mon association m'a permis de me battre pour ceux et celles qui, comme moi, ont été oubliés par la société. » Souad, elle habite dans le 15e arrondissement. Elle a fondé au Plan Daou une association Femmes du Plan Daou en action en 1998 et puis ensuite l'ONG Banlieue Santé. Souad, elle est donc militante sur tous ces plans, sur ces plans du soutien aux femmes, à leur santé, à leur insertion dans la société. Et elle fait visiter à Margot Mazelier les lieux de son association, qui sont des lieux clairs, ouverts, avec des coins pour les ateliers, des coins cuisine, un petit coin salon de coiffure. On s'adresse aux femmes pour les accueillir. Et quand elles ont des vies compliquées, elles trouvent ici un lieu pour se ressourcer, échanger et se retrouver, lance Souad. Elle a un regard toujours souriant. Et c'est vrai que l'ouverture de cet espace, c'est aussi un sourire dans le quartier. En effet, le lieu et les femmes qui viennent s'y retrouver viennent s'asseoir là quand elles ont besoin d'une détente ou même d'un refuge. Alors, Souad, elle est née en 1968 et elle a perdu son père très tôt. Donc, elle a dû se battre avec sa mère pour avoir une vraie place dans la société. Et elle dit qu'au début, au Plan Daou, elle a grandi dans une vraie mixité sociale. Et puis, peu à peu, les Français sont partis et la cité est devenue un genre de cité d'exclus, peuplée essentiellement d'Arabes ou d'Africains du Nord ou du Centre. Et qui étaient donc, en tant qu'immigrés, des gens qui se retrouvaient laissés de côté par la société. De plus, elle, Souad, à l'école, on s'aperçoit qu'elle est dyslexique. Et donc, c'est un traumatisme supplémentaire pour elle. Ça ne l'empêche pas de vivre, mais ça complique sa vie aussi. Et elle devient attentive à toutes les inégalités parce que finalement, elle est elle aussi, en particulier, victime de cette inégalité du dyslexisme. Et puis, voilà, elle constitue avec d'autres filles des groupes de rencontres. Et elle décide à un moment donné de quitter son quartier. Elle vient habiter dans le centre. Et elle continue à soutenir les filles avec qui elle milite, avec qui elle fait des rencontres, pour continuer donc la lutte des femmes avec le quartier du Plan Daou. Il y a même un moment où elle est bénévole au Secours catholique parce que ça lui permet de commencer à être active dans des ateliers de cuisine et des ateliers ouverts en particulier aux femmes battues. C'est important de donner aux femmes des lieux pour se rencontrer et c'est comme ça qu'elle crée son association. Elle se rend compte que les femmes ont besoin de se retrouver. Elles ont besoin de parler, elles ont besoin, entre générations, de se donner des liens. À un moment donné, quand elle a 3 enfants, elle a du mal à trouver un logement et elle rencontre le maire de son secteur pour justement demander, avec d'autres femmes d'ailleurs, des logements dignes. Tout le monde était très en colère, dit-elle. Il y avait des personnes là qui rencontraient le maire parce qu'ils avaient demandé à être relogés depuis 15 ans et ils n'avaient toujours rien. Et il y avait une dizaine de maires seuls. Et au bout d'un moment, le maire finalement m'a regardée et m'a dit « Mais pourquoi vous ne faites pas une association, madame ? Les gens qui sont là autour de vous vous écoutent et vous allez droit au but. Faites donc quelque chose avec eux. Voilà, c'est comme ça que l'association a été créée. Elle a changé de forme, de nom, etc. Mais c'est vraiment resté toujours une association qui défend l'insertion sociale et professionnelle des femmes, qui défend des lieux de rencontre et d'abri pour les femmes. C'est vraiment l'esprit du collectif qui permet de se retrouver et de faire qu'on soit là, mais jamais seul. Certaines me connaissent dans tout le quartier, bien sûr, mais certaines me connaissent dans tout Marseille maintenant. Et maintenant aussi, l'association comporte 10 bénévoles qui travaillent régulièrement, et oui, qui travaillent absolument, pour continuer à animer justement les ateliers et les points de rencontre ouverts aux femmes. En fait, peu à peu, on s'est rendu compte qu'on faisait un vrai travail de psychologue, dit Souade. La parole, ça libère. Donc, au début, on parlait aux femmes, puis on a parlé des parents, enfin aux parents. On a parlé des problèmes des parents, du quotidien de la maison. On a fini par parler des problèmes que tout le monde subissait dans la société avec un genre d'exclusion ou de ségrégation. On s'est rendu compte que parler, oui, c'était très important, par exemple, quand on devait parler santé. Parce que de nombreuses femmes ne savaient pas à qui parler santé. Elles n'avaient pas véritablement de médecin et elles ne savaient pas où aller lorsqu'elles allaient mal, physiquement. Alors, c'était important, oui, banlieue santé, c'était important de créer des lieux aussi pour parler des problèmes de santé. Il y a ici des activités mixtes, des activités d'ateliers, de loisirs et aussi de rencontres pour la santé. Parce que les problèmes des femmes, les problèmes des enfants, il faut pouvoir en parler avec une véritable ouverture et il faut comprendre ce qu'on répond. Donc, il faut des personnes qui soient formées sur le plan médical et social et qui puissent servir de lien pour les femmes, disons, qui manquent d'instruction et qui ne peuvent pas forcément dialoguer avec les médecins. C'était une vraie demande que les femmes puissent rencontrer d'autres femmes qui leur expliquent un certain nombre de choses sur elles-mêmes et sur la société, bien sûr. Au lieu d'être isolées chacune dans notre coin, on était regroupées. L'une travaillait, l'autre allait chercher son enfant. On parlait de nos problèmes, on parlait de nos souffrances, on critiquait, oui, ce qui se passait ou ce qui n'allait pas, mais surtout, on n'était jamais seul. Et ça, c'est vraiment ce qui était important. On s'appuyait, on avait une vraie solidarité. Quand on était en galère, on retrouvait chacun, chacune surtout, d'autres pour nous aider. Et moi, je parle de ce que j'ai vécu. Je sais que ce que j'ai vécu, je peux aider d'autres femmes à le vivre. Et donc, Souade, elle parle de l'association comme d'un lieu vers lequel on peut se tourner quand on n'a pas de famille avec soi sous la main, quand on n'a pas d'aide spécifique, mais qu'on doit trouver, en fonction des besoins, un soutien. C'est aussi ce type d'expérience, cette expérience en particulier de lutte féministe et de lutte antiraciste mêlée, qui fait l'expérience d'une autre femme qui nous parle de sa vie et de son évolution, c'est Amina. Amina lit, elle dit « Oui, j'ai galéré. Oui, ma vie a été parsemée de rejets et de violences, mais j'ai osé. J'ai osé et quand je suis tombée, je me suis toujours relevée avec l'aide des autres. » Amina, elle vit dans le quartier de Noailles. Elle est là avec son foulard et elle sait qu'autour d'elle, elle va pouvoir vivre de cette façon-là. Je suis née algérienne en 1984, mais je suis née à Marseille. Et donc, administrativement, je suis devenue française à 13 ans. Et je vis maintenant dans le 14e arrondissement entre la Morlette et la Paternelle. Elle a été bonne élève, dit-elle, et elle a vite compris que le niveau scolaire, ça ne suffisait pas pour entamer un cursus universitaire, parce que c'était un espace presque inaccessible. Alors, Elle s'est formée, oui. Elle a fait une formation de technicienne en intervention sociale et familiale, justement. Et elle a fait cette formation pour pouvoir aider les autres femmes à revendiquer leur formation. Parce qu'au début, elle avait du mal à définir ce qu'il fallait faire pour être un bon parent pour les enfants qui n'avaient pas véritablement de vocation à faire des études. Et cette formation des parents, c'est quelque chose qui lui a semblé prioritaire. Elle a rencontré d'autres militantes et puis soudain, en 2008, sa famille a été concernée par la guerre qui de nouveau explosait à Gaza. Elle a une tante à Gaza et elle s'est intéressée de très près à tout ce qui se passait en Palestine et tout ce qui se passait en particulier à Gaza. Elle a participé en 2009 au mouvement Stop au blocus de Gaza parce qu'elle s'est rendue compte que c'était prioritaire de faire sortir les membres de sa famille qui se trouvaient là, comme dans une prison à ciel ouvert. Bon, malheureusement, on n'est plus en 2009 et en 2024, on sait qu'à Gaza, ce qui se passe, c'est bien pire que ce qui se passait déjà en 2009. Mais c'est vrai que c'est important de se rendre compte que peu à peu, bah oui, tout le monde a été concerné par ce qui se passait à Gaza. Et ici, Amina, elle nous dit « Oui, j'ai été concernée par les problèmes politiques et en même temps, j'ai continué à m'occuper des problèmes des femmes et des problèmes de rencontres, justement, et de formation que devaient faire les femmes si elles voulaient sortir d'un milieu trop fermé. » Amina, elle a continué ses études, elle a passé une licence. Et alors que justement elle rencontrait d'autres femmes, et en particulier d'autres femmes musulmanes, elle s'est rendue compte qu'il fallait véritablement jumeler le combat féministe et le combat antiraciste. Parce que souvent, dans les mouvements féministes, elle sentait comme ce sentiment un peu raciste qui persistait et qui tenait à mettre à l'écart, comme elle l'était, les femmes voilées. Alors, elle revendique d'être à la fois une femme, une militante féministe et une militante antiraciste. Elle a, au cours de sa licence, lu beaucoup d'autrices, comme Fatima Mernissi, comme Virginie Despentes, comme Liv Strömquist. Et c'est là qu'elle s'est rendue compte que oui, les combats étaient indissociables les uns des autres. Que la lutte féministe et la lutte antiraciste étaient là pour délivrer les femmes de toutes leurs oppressions. À l'époque de sa licence, c'était la première fois qu'elle s'est mise à côtoyer non plus seulement des femmes, mais des couples, et donc des hommes, et qu'il y avait éventuellement, entre femmes, une sororité, mais avec des hommes militants, une vraie fraternité. Ressentir que, oui, on avait le droit d'être une femme à part entière, dans la société, tout en militant et tout en revendiquant de garder sa place. Amina lance « J'ai beaucoup lutté contre l'invisibilisation. J'ai passé ma vie à me batailler pour être moi, pour être une femme et pour être une femme qui a sa place dans la société. Je me suis dit que l'accès à l'humanité, ça devait être pour tout le monde. » Pour tout le monde, y compris les femmes d'origine étrangère, y compris celles qui n'avaient pas fait d'études au départ. C'est magique. Maintenant, je me sens à ma place. Et je sais que cette place, je ne vais pas la quitter. Je ne suis peut-être pas une meuf banale, mais en effet, on me voit. J'ai une vraie visibilité. Je suis sortie de l'invisibilité. Et je lutte aussi pour que chacun, chacune bien sûr, puisse militer dans des groupes de femmes, mais aussi dans des groupes en général, des groupes politiques et des groupes qui s'investissent dans l'égalité de chacun et de chacune, bien sûr, dans la société. Alors voilà, c'est vraiment la lutte de toutes ces femmes qu'on est content et contente de retrouver. Et on va terminer aujourd'hui sur un dernier portrait. Et non, ne riez pas, c'est encore Amina, mais c'est une autre Amina qui dit « J'aimerais qu'on normalise les parcours des femmes militantes, parce que s'il n'est pas normal, il est exceptionnel. Et s'il est exceptionnel, ça veut dire qu'il est difficile d'envisager d'avoir le même. Alors, oui, un parcours militant, mais un parcours normal. Un parcours normal de grande gueule, dit Amina. Elle est née en 1973 dans le quartier de Belzunce. Et en fait, parce que ses parents avaient du mal à financer leur logement du centre-ville, ils sont partis, elle est partie avec sa famille en 1978 à la cité de la Busserine. Et c'est là qu'à la Busserine, elle a vu, un petit peu comme l'Amina précédente, les Français quitter les quartiers, quitter les cités, et voir le quartier de la Busserine en particulier se constituer comme un genre de cité de l'immigration, avec des Arabes, oui aussi des Gitans, aussi des Comoriens et d'autres Africains. En 1983, alors que Amina a 10 ans, c'est la marche pour l'égalité et contre le racisme. Cette marche, vous le savez, elle part de Marseille pour aller jusqu'à Paris. Et Amina est très consciente de l'importance du caractère antiraciste de cette marche. Elle est aussi consciente du fait qu'il faut développer une conscience féministe. Eh oui, elle est à peine adolescente, mais déjà, elle chante des chants communistes entre midi et deux à la cantine avec des animatrices. Et oui, elle chante des chants féministes aussi à la cantine avec les animatrices. Alors oui, elle est bien consciente qu'après, il faut aller en manif. Nos maîtresses d'école étaient très engagées, dit-elle. Elles nous faisaient même jouer au foot. Et c'était génial parce qu'on ressentait de cela une espèce de forme de puissance. On avait envie de prendre notre place. On était là comme les garçons. Et les garçons, ils soutenaient l'OM, mais nous, on jouait au ballon aussi. Et donc, entre filles, eh bien, on construisait des stratégies de survie. On allait dans les booms. On se maquillait dans les ascenseurs, on fumait des clopes en cachette. On avait notre vie, à nous, oui, et notre vie de fille qui devenait indépendante. Amina rentre dans le centre-ville de Marseille au bout de quelques années et elle rencontre l'association Femmes Afrique Méditerranée, la FAM, en 1998. Elle milite dans cette association avec Johanna Moreau Fidalgo, qui travaillait à la mairie de Marseille et qui faisait bien des efforts pour que les femmes accèdent à diverses institutions et qu'elles trouvent des portes ouvertes pour des événements, des expositions, des rencontres. Donc, Femmes Afrique Méditerranée, ça a été son premier marchepied, disons, avec en particulier le sociologue Pierre Roche, pour faciliter les parcours scolaires des jeunes filles issues de l'immigration. Et oui, on retrouve là aussi l'importance de ce que soulignait déjà notre précédente Amina, la scolarisation et le succès scolaire des filles. Elle est là, la fille, là, derrière la vitre, oui. Sidi, il est aujourd'hui là avec sa petite fille. Et oui, elle est grande, sa petite fille, hein, mais quand même. Et c'est super important pour les filles, bien sûr. L'école, le succès scolaire, savoir choisir une orientation, savoir sortir un petit peu des ghettos qui se construisent. Et l'éducation, c'est très important. Et Amina nous dit que l'éducation des parents, c'est très important parce que justement, les parents, ce sont eux qui poussent les filles à faire des études ou pas. Donc, c'est important de montrer aux parents que oui, les filles doivent réussir leurs études et peuvent réussir dans la société grâce à leurs études. Elle nous dit « Les mères immigrées comme la mienne avaient été invisibilisées. Et pour moi, le féminisme et la scolarisation, c'est le contraire. C'est justement exister. C'est exister dans la société parce qu'on a un rôle à jouer. Et on doit être reconnu pour notre rôle dans la société. » C'est vrai que, ici, en effet, Amina continue son combat. Elle devient chef de service dans un institut médico-éducatif. Et puis, elle prend un rôle premier à l'amicale Le Nid. C'est là qu'enfin, elle est salariée, elle touche un salaire correct, bien sûr, et ceci pour faire un travail qu'elle a toujours voulu faire. Montrer aux femmes qu'il faut parler des différences, il faut revendiquer ces différences, en revendiquer en même temps l'égalité. Et c'est dur parce que, on est ému de voir toutes ces jeunes femmes qui arrivent, qui demandent de l'aide, mais qui en même temps sont fortes et sont souvent radicales. Les femmes fortes, oui, bien sûr, si on les aide. Les femmes fortes, si elles s'aident entre elles. Et les femmes radicales, parce qu'il faut l'être pour être justement puissante. Marseille trop puissante, oui, on y revient. Ça a été le combat du complot des cagoles, vous savez, on en avait parlé un petit peu il y a deux semaines. Et c'est toujours un combat, j'allais dire c'est toujours un complot, pourquoi pas. C'est toujours un combat de se battre pour faire des études, de se battre pour aller à l'université, de se battre pour être visible et pour, comme Amina, faire un vrai travail, bien sûr, même quand on est une femme issue de l'immigration. Un vrai travail reconnu, bien payé, n'exagérons rien, hélas, mais enfin payé en tant que tel, qui normalise un parcours, et comme elle nous le disait tout à l'heure en introduction, qui normalise un parcours qui finalement n'a rien d'exceptionnel ou ne doit pas être exceptionnel. Un parcours de réussite pour une femme immigrée, eh bien non, ce n'est pas exceptionnel. Et c'est ce que vont nous dire, dans la suite du livre, un certain nombre d'autres femmes qui ont été rencontrées donc par Margot Mazelier pour écrire son livre « Marseille trop puissante ». Et puis pour terminer sur une note justement de manifestation, on va citer un certain nombre de militantes que Margot a rencontrées à l'occasion de la grève féministe du 8 mars. Manifester, occuper l'espace, être là, en nombre, avoir de la force ensemble, c'est ce qu'ont fait les femmes de la zone d'occupation féminine qui ont été présentes sous l'ombrière en 2023, en 2024. C'est ce qu'ont fait les femmes de Cœur de Cagole, les femmes du Pain et des Roses, les femmes des Minots de Noailles, l'association des femmes kurdes, etc., etc. Alors oui, la lutte des femmes, la revendication des femmes, avec Pauline, avec Juliette, qui nous disent « nous toutes ». Oui, nous toutes, ensemble, nous toutes, pour défendre les droits des femmes, nous toutes, pour nous défendre contre le racisme. Tout de suite, des femmes universalistes, des femmes ouvertes sur le monde, des femmes qui veulent un milieu qui leur soit ouvert et non plus hostile. Ça faisait vraiment longtemps qu'on avait envie d'entendre ça. C'est aussi ce que disent les colleuses de Marseille, comme les colleuses des autres villes. Vous savez, mettre des slogans sur les murs, c'est prioritaire. Oui, c'est prioritaire parce que c'est l'expression d'un front commun. C'est l'expression de personnes qui sont des personnes et qui revendiquent la force du collectif. Alors, la zone d'occupation féminine sur le Vieux-Port, c'est là aussi. C'est pas de féminisme sans les femmes voilées. Pas de féminisme sans les putes. Pas de féminisme sans les trans, bien sûr. La revendication des femmes, c'est la revendication pour toutes et toutes, la revendication d'un monde meilleur pour toutes et toutes, dans les cités et dans les centres-villes. Et c'est ce que va nous rappeler notre générique. Si Sidi nous l'envoie. Salut, à la semaine prochaine. Au revoir.
Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda. Damana.